Alors, je vous invite à trouver le livre de Néhémie. Je vois que c'est la version qui n'a pas les diapos pour le message. Là-dessus, c'est de ma faute. Donc, on va pas avoir de diapos ce matin, mais c'est pas grave. Vous pouvez trouver le livre de Néhémie dans vos Bibles. Et la semaine dernière, nous avons commencé une série de messages sur le livre de Néhémie. Il est juste au milieu de l'Ancien Testament, si vous avez du mal à le trouver. Il est au milieu de l'Ancien Testament, même si c'est là, chronologiquement, c'est la fin de l'histoire de l'Ancien Testament. J'ai proposé pendant ce message, dimanche dernier, que nous prenions l'idée de la construction comme notre terme pour l'année. Une année pour construire, pour reconstruire sur Christ. Et logiquement, c'est la suite de notre thème de l'année dernière. Le thème de l'année dernière, c'était une année pour s'enraciner en Christ. On pose les fondations et puis on construit là-dessus. Et deux versets qui expriment cette idée sont Colossiens 3, 6 et le psaume 127, verset 1. Je vais les lire. Colossiens 3, 6. Puisque vous avez reçu Christ, Jésus le Seigneur, comportez-vous comme des gens unis à lui. Enracinez-vous en lui, construisez toute votre vie sur lui et attachez-vous de plus en plus fermement à la foi conforme à ce qu'on vous a enseigné. C'est Colossiens 3, 6. Et puis le psaume 127, verset 1. Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, en vain les bâtisseurs travaillent. Si l'Éternel ne garde pas la ville, en vain la sentinelle veille. Le premier de ces versets rappelle notre responsabilité de travailler pour construire notre vie sur Dieu. Et le deuxième nous rappelle la réalité que finalement, nous devons laisser Dieu travailler en nous et à travers nous, où tout ce que nous faisons sera en vain. Même si nous réussissons, si nous le faisons sans Dieu, ce sera en vain. Cette double réalité, l'importance à la fois de notre travail et de notre dépendance totale de Dieu, ça se voit partout dans la Bible. Et nous allons le voir surtout aujourd'hui en Néhémie 1. Vous pouvez trouver Néhémie 1. Et la semaine dernière, on n'a pas vraiment commencé à regarder le livre parce que j'ai essayé de donner plutôt le contexte du livre. Nous avons vu que Néhémie se situe chronologiquement à la fin de l'histoire de l'Ancien Testament. Et vous pouvez écouter ce message sur notre site web si vous n'avez pas pu être là dimanche dernier pour entendre l'introduction. Ce message sera en ligne, je pense, cet après-midi. En tout cas, en gros, nous avons vu qu'ici, en Néhémie, le peuple, la présence et le pays de Dieu sont en danger. Le peuple, la présence et le pays de Dieu sont en danger. Et c'est toujours de l'actualité. Parce que le peuple de Dieu, maintenant, c'est nous, c'est l'Église. Et si nous ne vivons pas d'une manière qui permet à sa présence de s'exprimer parmi nous, par son esprit, tous les pays de la terre ne le connaîtront pas. Hein, tu l'as trouvé, merci Nabé. Donc c'est un vrai danger, toujours de l'actualité, que le peuple de Dieu échoue à cette tâche d'exprimer, de se laisser Dieu s'exprimer en nous. Et aujourd'hui, nous allons voir comment Néhémie répond à ce danger, dans cette situation. Et comme premier, je pense que c'est une réponse qui nous interpelle directement dans notre quotidien. Et c'est une réponse qui nous poussera à la prière et à l'humilité. Rien ne sera construit dans notre vie sans la prière et sans l'humilité devant Dieu. Rien de valeur, de toute façon. Donc, lisons Néhémie 1. Néhémie 1, verset 1. Durant le mois de Kislev, la 20e année du règne d'Artaxerxès, alors que je me trouvais à Suse, la capitale, Anani, l'un de mes frères, est arrivé avec quelques-uns de Juda. Je les ai interrogés au sujet des Juifs rescapés de la déportation et au sujet de Jérusalem. Ils m'ont répondu, les rescapés de la déportation se retrouvent là, dans la province, au comble du malheur et du déshonneur. La muraille de Jérusalem est pleine de brèches et ses portes ont été réduites en cendres. À cette nouvelle, je me suis assis, j'ai pleuré et j'ai porté le deuil durant des jours, jeûnant et priant devant le Dieu du ciel. J'ai dit, Éternel, Dieu du ciel, Dieu grand et redoutable, toi qui conserves ton alliance et ta bonté à ceux qui t'aiment et qui respectent tes commandements, je t'en prie, prête-moi une oreille attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que moi, ton serviteur, je t'adresse en ce moment. Jour et nuit, j'intercède pour tes serviteurs, les Israélites, en confessant leurs péchés, ceux que nous avons commis contre toi. Oui, ma famille et moi, nous avons péché. C'est certain, nous nous sommes mal comportés envers toi. Nous n'avons pas respecté les commandements, les prescriptions et les règles que tu avais données à ton serviteur Moïse. Souviens-toi donc de la parole que tu avais ordonnée à ton serviteur Moïse de prononcer. Si vous vous montrez infidèle, je vous disperserai moi-même parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, si vous respectez mes commandements et les mettez en pratique, alors même si vous êtes exilé à l'extrémité du ciel, je vous rassemblerai de là et je vous ramènerai à l'endroit que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple, ceux que tu as rachetés par ta grande puissance et ta force. Seigneur, prête donc une oreille attentive à la prière de ton serviteur et à celle de tes serviteurs qui prennent plaisir à craindre ton nom. Donne du succès à la démarche de ton serviteur. Permets-lui de gagner la compassion de cette femme. J'étais le responsable des poissons du bois. Alors, Néhémie est en exil à Suse, la capitale des Perses. Et au départ, c'était les Babyloniens qui avaient amené le peuple de Juda, qui sont les Israélites du sud, en exil. Mais depuis lors, les Perses avaient conquis les Babyloniens. Et c'est pour ça que Néhémie est à Suse, au cas où vous êtes curieux. Mais c'est déjà un point important, parce que ce sont les Perses qui vont permettre aux Juifs de retourner à Jérusalem. On voit donc que Dieu se sert de ces deux nations pour accomplir sa volonté. Les Babyloniens pour punir le peuple, et puis les Perses pour les libérer. Dieu est au contrôle des nations. Mais même après le retour d'une bonne partie du peuple à Jérusalem, dans le livre d'Esdras, Néhémie apprend ici que les murailles de la ville ne sont pas reconstruites. Et qu'au contraire, les gens sont tellement découragés qu'ils ont abandonné ce projet. C'est triste pour ce peuple qui voulait reconstruire son pays et sa ville, et qui n'arrive pas. Mais c'est pire que ça. Il y a des brèches dans les murs. Et dans le monde ancien, une ville sans murs, ce n'est pas une ville. Le peuple ne peut pas se protéger. Il ne peut pas être en paix. Il ne peut pas défendre le temple qui est au centre de Jérusalem. Le peuple, le pays et la présence de Dieu sont toujours menacés. C'est ça le vrai problème. Ces nouvelles que Néhémie reçoit ne sont pas juste tristes. C'est une catastrophe pour ce que Dieu veut faire dans le monde. Finalement, si Dieu est au contrôle des nations, ça ne peut pas aboutir à la catastrophe. Mais à ce moment-là, c'est la catastrophe. Et qu'est-ce que Néhémie fait ? Principalement, il prie. Et aujourd'hui, nous allons voir plusieurs aspects de la réponse de Néhémie. D'abord, c'est sur l'écran, il se laisse attrister par les troubles à Jérusalem. C'est ce qui motive sa prière. Et puis sa prière a au moins trois parties. Il confesse ses péchés et ceux du peuple, il cite les promesses de Dieu et il prie avec l'intention d'agir. Alors, en premier, Néhémie porte le deuil et il ressent la tristesse pour les souffrances de Jérusalem. Cette réponse peut nous sembler bien naturelle, mais l'un des aspects frappants de cette histoire, c'est que Néhémie n'est pas touché directement par les nouvelles, par ce qui se passe à Jérusalem. Il n'est pas à Jérusalem, il est à Suse, et là il vit bien. Et pourtant, il porte le deuil parce qu'il y a des brèches dans les murs de Jérusalem, parce que le peuple de Dieu souffre. Et la mission de Dieu, le projet de Dieu, est menacé, et donc il prie. Et ça soulève la question, qu'est-ce qui nous motive à prier? Qu'est-ce qui nous attriste jusqu'au point où nous allons prier? Est-ce que nous prions pour les brèches spirituelles dans la vie de nos frères et de nos sœurs? Est-ce que nous pleurons à cause des brèches dans les murs spirituels de notre ville? Les brèches dans les murs spirituels de l'Église en Amérique? En Afrique, en Asie. Ou est-ce que nous prions et nous portons le deuil seulement lorsque la catastrophe nous touche directement, me touche directement? Évidemment, nous ne pouvons pas porter personnellement les fardeaux de chaque personne et de chaque église qui souffre dans ce monde. Mais il faut se poser la question, dans nos prières, si nous ne sortons jamais des choses qui nous touchent directement, c'est peut-être un signe que nous n'avons pas saisi les enjeux de cette histoire dont nous faisons partie. S'il y a des brèches dans les murs spirituels de nos frères et nos sœurs, que ce soit dans notre assemblée ou à l'autre bout du monde, ça nous concerne tous, parce que c'est notre histoire. Si nous ne sommes pas émus par ses besoins, c'est aussi peut-être un signe que nous n'avons pas l'humilité qu'il faut pour prier pour les autres. Parfois, il faut l'humilité pour prier pour les autres. Il y a quelques années, j'ai lu d'une grande église aux États-Unis qui a dû virer son pasteur à cause d'un comportement et d'une attitude très indigne d'un chrétien. Malheureusement, ça arrive. Et c'était une nouvelle choquante, parce qu'en général, ce pasteur était bien respecté dans le monde protestant-catholique. Et dans les mois après, comme on peut imaginer, c'était le chaos complet pour son église. Il ne savait pas quoi faire, et les membres étaient blessés et confus. Et à ce moment-là, j'ai constaté trois réactions en moi-même. Trois réactions qui luttaient l'une avec l'autre. L'une était justement la tristesse pour cette assemblée et pour cet homme qui était tombé si bas. Mais une autre, malheureusement, était l'indifférence, parce que ça ne touchait pas directement. Et l'autre, ce qui était encore pire, c'était l'orgueil. La partie de moi-même qui voulait dire, bah oui, moi je l'ai trop aimé ce pasteur en fait. Et son assemblée aurait dû savoir qu'il était comme ça. Et heureusement, je ne suis pas comme ça. Et ainsi de suite. Vous voyez ça? Ça peut aller comme ça dans notre esprit. Il y avait des brèches énormes dans la vie de cette église et dans la vie spirituelle de ce pasteur. Et au lieu de prier, au lieu de me tenir dans la brèche, une partie de mon esprit voulait croire que mes murs au moins étaient solides. Et que ça suffit. Ça, c'est ça qui comptait. Néhémie aurait pu dire que les brèches dans les murs à Jérusalem n'étaient pas de sa faute. Il aurait pu mépriser les rescapés qui avaient abandonné le projet. Il aurait pu refuser de prier pour eux parce que ça ne touchait pas la Suse. Mais Néhémie avait l'humilité de savoir qu'il n'était pas meilleur que les autres. Et que ce que Dieu voulait construire à Jérusalem le concernait lui aussi. Et donc il prie. Nous, est-ce que nous prions pour notre prochain, même lorsque ça nous touche plus? Et quand nous prions, comment prions-nous? C'est pour la deuxième question. Comment est-ce que nous prions lorsque nous prions pour notre prochain? La première chose que nous voyons dans la prière de Néhémie, c'est que si son humilité l'a amené à prier, son humilité transforme aussi sa façon de prier. Dans ses prières, Néhémie aurait dû juger les gens à Jérusalem dans son esprit. Vous avez jamais entendu une prière qui est plutôt un jugement? Des fois, on prie, mais on juge pendant qu'on prie. Néhémie aurait pu dire, « Oui, Seigneur, ton peuple t'a abandonné, ramène-les à toi. » Oui, ces gens-là comprennent leur erreur et se repentent. Et ainsi de suite. Mais ce n'est pas ce qu'il dit. Au milieu du verset 6, il dit, « Jour et nuit, j'intercède pour tes serviteurs, les Israélites, en confessant leurs péchés, ceux que nous avons commis contre toi. Oui, ma famille et moi, nous avons péché. » Néhémie ne se tient pas à l'écart de ceux pour qui il prie. C'est pas juste eux, c'est nous. C'est nous parce que Néhémie sait d'abord qu'il est pécheur lui aussi. Et donc il confesse ses propres péchés. Mais il va plus loin. Parce qu'il confesse aussi le péché de toute la communauté dont il fait partie. C'est la repentance communautaire. C'est peut-être quelque chose qu'on a du mal à saisir dans les cultures un peu individualistes, comme celles qu'on trouve surtout en Europe et aux États-Unis. Là, nous avons tendance à dire, mais moi, je l'ai bien fait. Alors, ça ne me concerne pas. Mais la réalité, c'est que je fais partie d'une communauté, comme Néhémie. Et si je dois me repentir de mes péchés personnels, je peux aussi confesser les péchés de ma communauté. Parce que je suis concerné. Je suis attristé. Et je suis impliqué dans la vie de ma communauté. Je ne peux pas me tenir à l'écart de mon peuple, de ma communauté. Quand je vois le péché chez quelqu'un d'autre, je ne dois pas nier son tort en refusant d'appeler le mal. Mais je ne dois pas me tenir à l'écart non plus. Comme si j'étais meilleur, ou comme si cela me concernait. Néhémie se répand et il confesse ses propres péchés et ceux de son peuple. Et ça ne veut pas dire, bien sûr, que les autres ne sont pas obligés à faire pareil. Mais en se tenant dans la brèche pour eux, la prière de Néhémie ouvre la porte de la grâce. Justement pour que cette grâce puisse amener les autres aussi à leur repentance personnelle. Mais en confessant le péché de la communauté, il commence à se tenir dans la brèche pour la communauté. L'humilité de Néhémie le conduit à la prière. Et ça commence par la confession. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Il prie selon les Écritures. Néhémie prie selon les promesses de Dieu. Et il cite les Écritures à Dieu dans sa prière. Sa prière au verset 8 et 9, par exemple, elle est tirée directement de Lévitique 26, de Deutéronome 4, Deutéronome 28, Deutéronome 30. Si vous avez une Bible d'étude, c'est peut-être marqué même dans la Bible d'étude. Deutéronome 30, par exemple, je vais lire 30, verset 3. Alors l'Éternel, votre Dieu, aura compassion de vous. Il vous restaurera et vous rassemblera pour vous faire revenir de chez vous. Les peuples parmi lesquels ils vous auront dispersé. Même si les exilés de votre peuple sont aux confins du monde, l'Éternel, votre Dieu, ira les chercher là-bas et les rassembler. C'est une belle promesse. C'est une belle promesse qui a été donnée des centaines d'années avant ce moment-là en exil. Mais Néhémie, il se souvient de ce que Dieu a dit et il cite dans sa prière Nous disons souvent qu'il faut, mémoriser la parole de Dieu afin de résister au mal, comme Jésus a résisté à Satan lors de sa tentation. Et c'est vrai. Mais c'est aussi vrai qu'il faut mémoriser la parole afin de prier selon sa parole. Dans mes prières, moi, si je veux adorer Dieu, souvent, je n'ai pas les mots. Je ne sais pas si vous êtes moi, mais je ne trouve pas les mots pour exprimer mon adoration. Mais la Bible me les donne. Et c'est pareil pour mes requêtes. Si je cite la parole de Dieu à Dieu, ce n'est pas parce que j'ai peur qu'il ne se souvienne pas. Quand je cite les promesses de Dieu dans mes prières, je lui montre que moi, je m'en souviens. Et je crois qu'il est capable de les tenir. Quand Néhémie dit, « Oh Dieu, souviens-toi de tes promesses », ce n'est pas parce qu'il pense que Dieu a oublié. C'est qu'il sait que Dieu ne va pas agir avant que les peuples s'en souviennent. Si Dieu agit avant que le peuple s'en souvienne, le peuple ne va pas se rendre compte que c'est Dieu qui fait exactement ce qu'il avait dit. Il faut que le peuple se souvienne, puis Dieu va agir. Ça fait partie de la promesse. Quand mon peuple me revient, je vous rassemblerai. Et revenir à Dieu, ça veut dire confesser et se souvenir de ce que Dieu a dit dans sa parole. Et donc, je vous encourage vivement à apprendre à mémoriser la parole de Dieu. Mais elle est puissante, la parole. Elle est puissante en nous pour nous transformer. Si tu veux te tenir dans la brèche pour quelqu'un qui est tellement découragé, qu'il a abandonné ce que Dieu voulait construire dans sa vie, mémorise la parole. Choisis un verset par semaine, peut-être, à mémoriser. C'est tout à fait faisable. Même si vous avez du mal, comme moi, ce n'est pas le type de chose que je trouve facile, mais c'est faisable. Et cela vous fera du bien. Et ça va transformer aussi vos prières. C'est même une bonne façon d'apprendre à prier à haute voix dans un groupe. Si vous sentez un peu timide, vous priez dans un groupe, apprenez un verset et citez le verset dans votre prière, comme celui-ci. Seigneur, tu as dit dans ta parole, si vous revenez à moi, l'Éternel, votre Dieu, aura compassion de vous, alors je reviens à toi. Amen. C'est simple, c'est court. Il ne faut pas multiplier les mots. Citez la parole et ça suffit. Il y a de la puissance dans la parole de Dieu. Cela dit, pour que cette puissance agisse, il faut la comprendre. Il faut comprendre ce qu'on dit. Ce n'est pas une formule magique. C'est une relation. On ne peut pas juste citer les mots sans comprendre ce que nous disons. Si nous allons citer la parole, faisons aussi le travail qu'il faut pour la comprendre. Étudier, méditer. Et quand je cite particulièrement les promesses de Dieu, il faut que je me pose deux questions. Deux questions pour moi. D'abord, sont-elles pour moi? Et sont-elles pour maintenant? Parce que sinon, on peut facilement se tromper. Vous savez qu'il y a des promesses dans la Bible qui ne s'appliquent pas à moi. Au moins pas directement. Ce n'est pas pour dire qu'elles ne soient pas importantes. Juste que je dois faire l'effort pour comprendre à qui elles sont adressées. Quand nous lisons en Galates 3, par exemple, « Vous êtes tous fils et filles de Dieu. » C'est une promesse. Mais c'est une promesse qui est faite à tous ceux qui ont mis leur foi en Jésus. Il faut savoir à qui la promesse est adressée. Un autre exemple, un peu bête peut-être, mais c'est la promesse de Dieu à Abraham. Dieu dit à Abraham, tu auras un fils et je ferai de toi une grande nation. Cette promesse est faite à Abraham et pas à moi. Dieu n'a pas promis que moi j'aurai un fils ou que moi je serai le père d'une grande nation. Je n'ai pas de fils, d'ailleurs. J'aime bien mes filles, ça suffit. J'aurais pas de fils. Mais si j'en voulais, j'aurais peur de citer dans mes prières à Dieu cette promesse que Dieu a faite à Abraham, il n'a pas promis un fils biologique à tous ceux qui veulent. Mais ça ne veut pas dire que cette promesse n'est pas importante pour moi. Au contraire, selon la Bible, je suis un fils spirituel d'Abraham. Voilà l'importance de cette promesse. Moi, je suis un fils spirituel d'Abraham parce que j'ai mis ma foi en Christ. Je suis et vous aussi. Nous sommes l'accomplissement de cette promesse. Quel privilège! Mais pour reconnaître ce privilège, je dois connaître la parole. Je dois comprendre la parole quand je le dis. Et encore, c'est peut-être un exemple un peu évident. Mais le principe est important. Parce que souvent, les fausses doctrines, comme dans les églises de la prospérité, par exemple, souvent, elles sont basées sur cette idée de revendiquer les promesses de Dieu, mais sans comprendre le sens de la promesse, ou comment elle s'applique à nous maintenant, à l'Église. Pour nous, l'Église, souvent le sens est spirituel plutôt que matériel, tout comme le temple et la ville que nous devons construire sont spirituels plutôt que matériels. Parfois, ça, c'est la clé. Et parfois, la clé, c'est tout simplement le timing. Même quand une promesse est adressée à moi directement, Dieu fait les choses à sa manière et en son temps. Et l'une des raisons que je trouve utile de raconter toute l'histoire de l'Ancien Testament, comme j'ai essayé de faire le dimanche dernier, c'est un peu fou d'essayer de raconter toute l'histoire de l'Ancien Testament, mais je trouve important, parce que c'est important pour nous rappeler, que nous faisons partie d'une longue histoire. Et dans une longue histoire, parfois, il faut patienter. Le peuple juif a dû attendre 70 ans en exil avant de pouvoir revenir à Jérusalem. Et puis, ils ont dû attendre encore 430 ans avant la venue du Messie. Une période pendant laquelle le peuple était opprimé. D'abord par les Grecs et puis par les Romains. Je sais que ce n'est pas facile d'attendre. Je ne suis pas particulièrement patient moi-même. Mais comme le dit l'apôtre Pierre par rapport au retour du Christ, le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains se l'imaginent. Il fait simplement preuve de patience à vos égards, car il ne veut pas qu'un seul périsse. Dieu n'est pas en retard dans l'accomplissement de ses promesses dans ta vie non plus. Il a ses raisons. Même quand on ne le voit pas, il a ses raisons. Si nous citons les promesses de Dieu dans nos prières, alors faisons-le humblement. Nous ne sommes pas là pour forcer la main de Dieu. Nous sommes là pour nous soumettre à sa volonté. Même lorsque nous le comprenons. Alors finalement, nous voyons que l'humilité dans la prière permet à Néhémie de prier avec l'intention d'agir avec audace. Néhémie a un poste important dans le gouvernement de ses oppresseurs. Il est le responsable des boissons du roi. C'est-à-dire, il goûtait le vin du roi pour assurer que ce n'était pas empoisonné. Donc, important et dangereux en même temps. Et ça voulait dire qu'il était avec le roi tout le temps. Et il faut savoir que souvent, les choses importantes sont dangereuses. Même dans le royaume de Dieu. Ça voulait dire qu'il était avec le roi tout le temps. Et en fait, le responsable des boissons était souvent considéré comme l'un des conseillers principaux du roi. Néhémie est donc dans une position d'influence. Mais Néhémie sait aussi d'où vient cette influence. Elle vient de Dieu. C'est Dieu qui a placé Néhémie là où il est. C'est Dieu qui t'a mis là où tu es, qui t'a donné les capacités et les opportunités que tu as. C'est Dieu qui agit afin que cette église puisse grandir et avoir des projets ensemble. C'est Dieu. Sans doute, nous avons fait nos efforts. Sans doute, Néhémie a dû travailler dur pour gagner la confiance du roi. Mais même le désir de faire l'effort et la force d'avancer, ça ne vient pas de nous, ça vient de Dieu. Et donc, sachant que tout dépend de Dieu et non pas de lui, Néhémie peut oser demander que Dieu utilise en toute humilité ce qu'il a donné. À ce jour-là, il dit, j'étais le responsable des boissons du roi. Et donc, il prie, donne du succès à la démarche de ton serviteur. Permets-lui de gagner la compassion de cet homme. C'est frappant. Néhémie ne mentionne tout ça qu'à la fin du chapitre. Dans un court verset, Néhémie n'est pas préoccupé par sa propre identité. Vous voyez, il n'est pas préoccupé par le fait que moi je suis le responsable de poisson du roi. Et il n'est pas préoccupé non plus par l'identité du roi. Parce que si vous ne savez pas, si vous n'avez pas lu le deuxième chapitre, vous avez peut-être même pas constaté que quand il dit cet homme à la fin du chapitre, c'est le roi dont il parle. Mais il ne le nomme pas. Parce qu'il est plutôt préoccupé par Dieu et par ses promesses. Parce que c'est ça qui va combler les brèches à Jérusalem. Et c'est pour ça qu'il peut entreprendre cette démarche dangereuse et risquée qu'il va entreprendre au chapitre 2. Nous la verrons la semaine prochaine. Néhémie va essayer d'influencer le roi. Et nous savons comment les rois peuvent réagir quand on cherche à les influencer. Mais malgré le danger, la prière amène Néhémie à l'action. Comment est-ce que Dieu veut t'utiliser? Comment Dieu veut-il nous utiliser? Avons-nous demandé même dans nos prières? Dieu veut agir à travers nous. Mais avons-nous osé imaginer que Dieu veut faire de grandes choses dans notre vie? Non pas de grandes choses comme le monde les définit, mais de grandes choses dans le royaume de Dieu, où les faibles sont forts et les pauvres sont riches. La puissance de Dieu veut dire que nous pouvons oser demander de grandes choses de Dieu, si nous souvenons que c'est lui qui est grand. Et si nous revenons toujours à cette attitude de confession et de repentance que nous avons eue. Et donc j'aimerais terminer en revenant à cette idée de la confession. Parce que notre prière et notre action doivent commencer là. Néhémie commence sa prière par la confession. Parce que c'est la confession qui nous libère pour l'action. C'est la confession qui nous libère pour l'action. La repentance et la confession nous débarrassent de ces énormes fardeaux que nous avons accumulés sur nous-mêmes. Le poids de la culpabilité et de la honte. C'est très difficile d'agir pour Dieu et même de prier avec audace lorsqu'on se sent constamment tiré vers le bas par le poids de nos péchés. C'est l'une des façons principales dont Satan nous rend inactifs et passifs dans notre vie chrétienne. C'est pour ça qu'il est l'accusateur. Parce qu'il sait que même pour un croyant, quelqu'un qui est pardonné par le sang de Jésus, le poids du péché, le poids de la culpabilité et de la honte nous pèsera. Il nous pèsera jusqu'à ce que nous le confessons. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il suffit de le confesser, de les exposer au sang de Jésus pour qu'il tombe de nos épaules, pour qu'il tombe. Il y en a beaucoup ici ce matin, j'en suis sûr, qui ont un poids sur les épaules. Il suffit à exposer ce poids au sang de Jésus pour qu'il tombe. Si nous voulons prier et agir avec audace comme Néhémie, commençons par la repentance et la confession. Si vous avez mis votre foi en Jésus, vous êtes pardonné. C'est pas la peine de porter toujours le poids de la culpabilité et de la honte. Confessez vos péchés. Peut-être avec l'aide d'un frère ou d'une sœur, mais les confessez à Dieu. Et vous serez étonné du poids qui est levé de vos épaules. Et s'il faut, repentez-vous, Ça ne sert à rien de confesser vos péchés si vous ne repentez pas. C'est l'hypocrisie. Repentez-vous s'il faut. Repentons-nous s'il faut. Confessons. Et voyons le poids qui sera levé de nos épaules. Et si vous n'avez jamais mis votre foi en Christ, c'est là où il faut commencer. Il faut le dire. Parce que c'est là, c'est la foi en lui qui nous ramène de notre exil, qui reconstruit notre relation avec Dieu. Et ça, c'est la fondation de tout le reste. La première chose que Dieu veut construire, c'est sa relation avec lui. Sa relation avec nous. Et tout va se construire et sur ça. Sur cette relation. Prie pour ça. Seigneur, tu es saint. Mon Père, parce que tu es un Dieu saint.